Quand on invente le bateau, on invente le naufrage. Quand on invente l'avion, on invente le crash. Paul Virilio.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
12h et bientôt 5 minutes, il y a Marie-Agnès Baupin, il y a Catherine Robert et Viane, il y a Laurence Bibot dans ce studio.
Yes.
Vous avez bien commencé cette deuxième heure d'émission. Alors, on va entendre des voix.
Oui.
Et des voix de petites filles. Vous
Écoutez,
me faites peur.
Oui. Ah oui, ben ça fait peur.
Ah.
Ce sont des petites filles en fleurs, voire des fausses Lolita. Si vous voulez, il y a un arc.
Voilà, ce sera dans quelques instants. En fin d'émission, c'est Xavier Van Bugenhout qui viendra nous parler des sorties BD. Et puis, c'est une spéciale cinéma aujourd'hui avec notre ami Dick Tomasovic. Deux sujets au programme, Les Ailes du Désir. D'abord, chef-d'œuvre de Wim Wenders, sorti en 87 à l'occasion de la sortie aussi d'un coffret chez Carlotta Film. Et puis, on va évoquer un autre film, un film d'animation français sorti en 1973, La Planète Sauvage, de René Laloux, à la occasion de la sortie d'un livre qui retrace l'odyssée de ce film aux éditions Capricci. Bienvenue à tous et à toutes d'Entrée sans frapper.
La première.
Entrée sans frapper.
Éric Russon.
Et nous avons une action sold-out. Est-ce que c'est les actions sold-out,
non,
Laurence?
C'est quoi?
Bah, il y a par exemple. Gabriel Rios vient à l'ancienne Belgique le 19 avril à 20h30. Ouais. Il n'y a plus une place. Sauf que nous en faisons gagner 2x2 pour ce concert à nos auditeurs, ceux qui envoient en tout cas le code RIOS, R-I-O-S, au 6031, suivi de vos noms, prénoms et adresses mail et adresses postales, 75 centimes d'euros par participation. Et les gagnants, bien sûr, heureux gagnants, seront avertis personnellement par mail.
Écoute, on ne prend pas assez le temps. Entends-tu, ça ne s'arrête plus.
La boudeuse,
tout cela ressemblait à autre chose.
Oui, mais votre ambition n'était pas cependant d'ordre poétique.
Entrée sans frapper sur la première avec la Sonuma.
Allez, on commence avec vous et avec des voix empruntées à la Sonuma et des voix de Lolita.
Oui,
enfin. Ou de petite fille,
oui,
entre guillemets.
Oui, vous allez voir. En 62, l'émission 9 millions s'intéresse à la jeunesse. Et c'est là que j'ai emprunté le titre puisque le reportage s'appelle Petite fille en fleurs ou Twisteuse.
Okay.
Alors ça suit une jeune fille de 19 ans, comme ils le disent, à l'aise dans son époque, et ça s'inscrit dans une longue tradition de ce que je nommerais interview malaise. La règle, ben, c'est souvent de très jeunes gens, souvent des très jeunes filles, qui passent bien souvent pour la première fois à la télé et qui se retrouvent face à un journaliste qui n'est pas beaucoup plus malin qu'eux ou qu'elle, mais qui est juste plus aguerri.
Ouais.
Et celle-là ?
Celle-là, c'est une jeune fille de 19 ans, un peu instable.
Pourquoi instable ?
Parce qu'elle n'est peut-être pas encore arrivée à ce qu'elle voulait, parce qu'elle n'a pas encore atteint son but, alors elle balance un petit peu, quoi, d'un côté, puis de l'autre. Peut-être que quand elle y arrivera, quand elle sentira qu'elle est arrivée à ses fins, elle se casera, elle se calmera.
C'est qui ?
C'est cette jeune fille anonyme, de 19 ans, qui parle de son époque, et qui là nous raconte que quand elle y arrivera, elle se casera, elle se calmera. J'entends par là, mais je pense que vous aussi, elle se mariera. Et quand on est marié, on est plus calme, plus stable. Ouais. Ouh, voilà, qui donne terriblement envie.
Ouais, et ce sont souvent des hommes qui posent ce genre de questions.
Ah oui, c'était la plupart du temps, 99% des cas, des journalistes hommes qui interviewent.
Et un peu plus vieux, évidemment, que les jeunes filles interviewées.
Absolument. Ouais. Gros malaise toujours. Durant le reportage, Shella fait son cinéma. Elle a 21 ans. Elle tourne dans Bang Bang, un film de Serge Piollet. Et elle est interviewée par Louis Verlan. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal. Puisque
Louis Verlan est
le papa de Gilles. Bon, alors, bien que Louis Verlan ait un talent incommensurable, tout comme son fils Gilles, il ne se montre ici pas à son avantage en pressant Shella de questions gênantes. Vous allez entendre de nouveau interview malaise où on se dit pauvre Shella qui se défend comme elle peut.
Vous avez un certain métier dans la chanson, pour ne pas dire un métier certain. Le métier de comédien, ça vous paraît difficile ?
Vous savez, c'est tout à fait autre chose. Pour devenir comédien, il faut travailler pendant 10 ans, prendre des cours. Enfin, c'est tout un travail. Moi, je ne suis pas du tout comédienne. Enfin, j'en sais rien pour le moment, on verra. J'essaie d'être naturelle, sympathique.
Admettons que je sois votre metteur en scène. Vous êtes en face de votre jeune premier et vous devez lui dire « je t'aime ».
Alors, je vous demande... Je ne sais pas si j'aurais à lui dire de toute façon.
Non, mais imaginons. Vous auriez à lui dire... Une façon tendre, vous diriez ça comment ?
Je sais pas, il faudra d'abord que je réfléchisse, que je sois dans l'action, puis je lui dirais tout simplement, je t'aime, c'est tout.
Une façon pensée ?
enfin, je sais pas, vous savez, il y a l'action, il y a le partenaire qui est là, il y a quelque chose qui se passe, c'est difficile de dire ça comme ça.
D'une façon excédée.
Excédée? Si je suis excédée, j'en vais balader.
Et vous ne lui dites pas je t'aime d'une façon excédée pour lui faire plaisir.
Non, ben non, je...
De toute façon, ça vous gêne de lui dire je t'aime.
Enfin, pour le moment, ça me gêne de le dire comme ça, de but en blanc, en fait. Je sais pas, c'est
caché d'où-même.
Moi, je dirais simplement, je t'aime, c'est tout.
On dirait qu'elle est dans un commissariat.
C'est terrible. Ce qui nous gêne, ce sont vos questions, monsieur. Mais bon.
Mais ouais.
Mais oui, qu'est-ce que vous voulez?
Ouais, c'est un peu condescendant, un peu hautain, ouais.
Oui, c'est pas joli, joli. Alors, heureusement, les temps changent. Et ici, vous allez le voir, on est bien plus loin, on est près de chez nous. Pas question de défense, mais plutôt d'attaque, puisqu'on est avec une ex-Lolita, Lio. Alors, Lio a 27 ans, elle est devant le micro de Michel Cédric, et bah, il n'y a rien à faire, une femme qui interviewe une femme,
c'est
dans ce cas-ci, c'est plus agréable.
Ouais, on se souvient des émissions de Michel
Cédric. De Michel Cédric, absolument.
Évidemment.
Je dis pas que c'est la norme, hein. Il y a aussi des bitches. Mais voilà, mais pas ici. Lio a déjà une sacrée carrière, mais à cette époque-là, elle échappe pas aux critiques, voire aux jugements d'une certaine presse. Alors je sais pas si à l'époque on la traitait de conne, comme elle le prétend, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a été jugée comme frivole, légère, alors qu'on le sait tous ici, et vous le premier Eric, c'est que les premiers albums de Lio sont des bijoux de lucidité et d'intelligence, puisqu'ils ont été écrits et produits par Marc Moulin et Jacques Duval.
Oui.
Lio, qu'aujourd'hui, même si certaines prestations embarrasse, on aura toujours plus envie, en tout cas pour ma part, de protéger que de critiquer.
Lio, on va devoir se quitter. Mais moi, je voulais reprendre une petite phrase. J'espère que c'est bien vous qui l'avez dite. J'ai envie qu'on me prenne au sérieux, mais pas envie de jouer cette carte-là. Il y a des moments où j'en souffre terriblement. Je dois lutter contre moi, mais je sais aussi que c'est ma force.
Oui, c'est moi qui ai dit ça. Et j'y crois beaucoup. Et j'en souffre terriblement toujours. Je veux dire, moi, je trouve qu'effectivement, je suis méjugée, je suis mal jugée. Enfin, je trouve que les gens, c'est drôle, parce que s'ils passent tant de temps à écrire des choses sur moi, sur Lio, pour terminer toujours que je suis la reine des connes, et ils sont en train de parler d'une fille conne, bête, qui n'a rien à dire, qui ne chante que des bêtises, et ils en tartinent des pages, parce que ça vend à leur public, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte de parler de quelqu'un d'aussi bête à leur public intelligent dans une revue intelligente?
Voilà.
Hein, elle savait se défendre.
Exactement. Et on se rappelle, évidemment, des émissions. Ça s'appelait Dites-moi.
Absolument.
Des émissions.
Dites-moi.
Ça, c'était le générique de Dites-moi. Et on a terminé avec Lio, cette séquence sur les Lolita.
Oui.
Les petites filles et les.
Et celles qui se sont affranchies. Oui.
Et les vieux messieurs qui les interviewaient à l'époque. Merci beaucoup, Laurence Bibot. On écoute Super Grâce avec Moving.
La première.
Als das Kind. Kind war, ging es mit hängenden Armen.
La genèse des Ailes du Désir, c'était clairement de faire un film dans Berlin et sur son passé et tout ce que cette ville représentait pour moi, l'Allemagne tout court.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom und diese Pfütze das Meer.
Entrez sans frapper.
12h16, nous accueillons Dick Tomasovic. Bonjour Dick.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Bonjour, on le rappelle, hein, vous êtes chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'Université de Liège. Nous allons parler de deux films. Le premier, un film allemand, le deuxième, un film français d'animation. On va d'abord s'intéresser aux Ailes du Désir. On a entendu, je crois que ce sont les premières phrases du film dit par le comédien principal, on va en parler. Les Ailes du Désir, ce film que Wim Wenders a réalisé en 1987. On rappelle que c'était quand même 2 ans avant la chute du mur et que ça a de l'importance, cette information-là. On va en parler avec vous. Et c'est à l'occasion de la sortie d'un coffret collector de Carlotta qui a été le fruit d'un travail de restauration assez particulier, Dick.
Oui, le film n'est de 87, ce qui n'est pas très très vieux en soi, mais en fait, les copies à disposition étaient très endommagées. Et en vérité, c'est pour les 30 ans du film en 2017 que Les Ailes du Désir a fait l'objet d'une superbe restauration 4K pour être ressortie en salle. Et c'est cette restauration qui se retrouve désormais disponible dans ce coffret Blu-ray. Et c'est vraiment une bonne chose puisque les précédentes versions que l'on pouvait avoir chez soi étaient en fait en assez piteux état. Pourquoi ?
Ouais.
Parce que le film est un mélange de noir et blanc et de couleur. Mmh. Et à l'époque, c'était un dispositif assez complexe. Il fallait donc filmer avec différentes pellicules et puis recopier ces pellicules sur d'autres. Et en vérité, Wenders avait perdu quasi 6 générations, comme l'on dit, c'est-à-dire 6 niveaux de qualité,
ouais,
entre la pellicule originale et le film terminé. Or, il avait confié la direction photo à Henri Alcan. Henri Alcan, c'est un immense et légendaire chef opérateur français. Il avait fait la bataille du rail de René Clément, la Belle et la Bête de Jean Cocteau, les vacances romaines de William Wyler, c'est lui aussi. Pour ne citer que...
Oui, il y avait une maîtrise du noir et blanc incroyable.
Absolument. Et Wenders est allé le rechercher hors de sa retraite, parce qu'il a alors 77 ans, pour obtenir le noir et blanc qu'il va imaginer, c'est-à-dire un noir et blanc assez féerique, d'une grande subtilité. Je ne dirais pas que c'est un film en noir et blanc, c'est un film en toute nuance de gris. Mmh. Hein. Et en vérité, on n'avait pas de copie qui rendait hommage à la beauté du film original. Et donc là, on est parti vraiment des différents morceaux couleur et noir et blanc qu'on a retrouvés, qui avaient été sauvegardés et que l'on a simplement nettoyés et stabilisés. Et on a refait le montage complètement, en imitant évidemment de manière très exacte le montage de 87. Et donc on a un grain d'image, une infinie palette de gris qu'on n'avait jamais même pu imaginer. Donc on a vraiment... Enfin,
ouais, c'est une meilleure version que la sortie de l'époque finalement.
Ah oui, oui, absolument.
Ouais,
ouais. Ouais, ouais.
Alors c'est aussi un coffret qui donne accès au scénario du film, oui, et à quelques bonus.
Oui, alors c'est classique, les entretiens Wim Wenders, c'est des scènes coupées, bon, ce genre de choses. Oui. Mais il y a un très chouette livret d'une à peu près 200 pages. Il s'appelle Le ciel de Berlin, les ailes du désir. Et en fait, on y retrouve des photos d'archives assez exclusives, mais surtout aussi le scénario en français, donc illustré du film. Et c'est assez intéressant parce que c'est vrai que dans le film, il y a quelque chose d'assez hypnotique, parfois dans la voix des anges, on va y venir. Hein. Mm-hmm. Un texte assez littéraire écrit en collaboration avec Peter Handke. Oui. Et là, on a l'occasion de revenir un petit peu sur des moments de monologue de ces personnages très littéraires, de pouvoir s'arrêter dessus. Donc ça aussi, c'est assez précieux avec ce coffret.
Voilà, un film qui s'appelait dans sa version originale Der Himmel über Berlin. C'était quoi ce film? Parce que moi, je me souviens de l'avoir vu à la sortie. Présentez-nous ce film, son casting aussi, qui est très étonnant. Il y a d'ailleurs une espèce de guest star assez connu du grand public. Et ça raconte quoi finalement?
Alors, le film situe son histoire dans les lieux et l'époque de son tournage, à savoir 1987 à Berlin. Et en effet, vous le disiez, on est très loin d'imaginer, ouais, à ce moment-là que 2 ans plus tard, hein, ce fameux mur qui divise la ville et que l'on va voir beaucoup, ouais, dans le film, va s'effondrer. Et donc rendre Berlin à Berlin en quelque sorte, mais transformer l'Allemagne, transformer aussi nos blocs géopolitiques, bien entendu. Et tout ça est important parce que ça colore aujourd'hui indéniablement le film d'une espèce de filtre mémoriel un peu supplémentaire. Alors, on y suit 2 anges. De vrais anges, des anges avec des ailes, etc. L'ange Damiel, c'est Bruno Ganz, et l'ange Cassiel, c'est Otto Sander, qui errent à travers la ville. Ils sont invisibles aux yeux des humains, à part les jeunes enfants qui peuvent les apercevoir, mais eux, ils voient tous les humains, et surtout, ils entendent, ils recueillent toutes les pensées des hommes et des femmes qu'ils croisent, et notamment beaucoup de voix intérieures des habitants de la ville qui sont des personnes blessées, enfermées dans leur malheur, leur vieillesse, leur infirmité, leur deuil, leur dépression, ce genre de choses. Ces anges ont de l'empathie, mais ne peuvent rien faire pour eux. Mmh. Mais il se trouve que Damiel, donc c'est Bruno Ganz, a de plus en plus envie, d'agir dans le monde des humains, d'essayer d'entrer en empathie, de comprendre mieux la condition humaine. Et notamment, il fait 2 rencontres importantes. La première avec une femme, une Française exilée qui est Marion, jouée par Solveig de Martin, qui est devenue, à la suite d'une séparation dans le film, trapéziste de cirque.
Ouais.
Et il est infiniment touché par la grâce de la circassienne. Et on le comprend parce qu'elle est aussi très amoureusement filmée par Wenders. Elle sera d'ailleurs un temps sa compagne. Et donc, c'est une première chose, il a envie de devenir humain pour pouvoir la rencontrer, en fait, et passer en quelque sorte de l'autre côté. Et puis, la deuxième rencontre, c'est celle avec, vous l'avez dit, enfin, vous l'avez annoncé, c'est Peter Falk.
Mais oui, voilà, l'inspecteur Columbo.
Exactement.
Le lieutenant Columbo.
Oui, grand acteur chez Cassavetes, et bien sûr, le fameux lieutenant Columbo qui joue son propre rôle de Peter Falk, c'est-à-dire un acteur américain en tournage à Berlin, mais qui ressent la présence des anges. Et même s'il ne les voit pas, il est capable de leur parler, ce qui laisse supposer qu'il a peut-être une proximité avec les anges. Alors, j'en dis pas plus, mais en fait, ces 2 rencontres vont inviter Damiel à essayer de quitter son statut d'ange pour rejoindre la condition humaine.
Voilà, ça, c'est l'histoire de ce film magnifique, qui se situe comment dans le parcours cinématographique du cinéaste Wim Wenders?
Oui, à un moment assez crucial. Wenders, son parcours est très complexe, c'est très singulier, il tourne toujours. Perfect Day, c'était sorti il y a quelques semaines, on s'en souvient. C'est quelqu'un qui va développer son amour du cinéma en étant en France, parce qu'il... Après des études de médecine, il va se réfugier pratiquement à la Cinémathèque française, où il voit l'histoire du cinéma. Il rentre en Allemagne, devient critique de rock et de cinéma, rencontre l'écrivain Peter Handke. Son premier grand film, c'est donc L'angoisse du gardien de but au moment du pénalty en 72, première adaptation. Il fait ensuite une sorte de trilogie en forme de road movie, Alice dans les villes, Faux mouvement, Au fil du temps, où on sent déjà une espèce de fascination à la fois pour la culture musicale et cinématographique américaine, et aussi un regard un peu désabusé sur la société allemande. Il commence à travailler vraiment ses dialogues en décalage, ses intrigues circulaires, des ellipses qui malmènent un peu la narration. Et puis en fait, il va se retrouver invité par Coppola lui-même aux États-Unis. Il va commencer à tourner là-bas, notamment pour la firme de production de Coppola, Hamet, qui va prendre un peu de temps à sortir, une adaptation donc, de Dashiell Hammett, un documentaire sur Nicolas Ray
ouais,
qui est absolument incroyable, ce film, un X-Movie qui va suivre les dernières heures en fait, de Nicolas Ray qui est atteint d'un cancer. Et puis surtout, il fait son Paris, Texas en 84, adapté de roman de Sam Shepard, immense succès avec Natasha Kinski, Harry Dean Stanton, Dean Stockwell, Palme d'Or à Cannes. Et c'est en fait justement à ce moment-là où Wenders a une renommée mondiale, qu'il est devenu en partie un cinéaste hollywoodien, qu'il décide de revenir en Allemagne. Dit-il, sentant le besoin de retrouver sa terre natale et de faire un film hommage à la capitale qu'il a en partie fouie dans le fond. Et donc il veut revoir la ville de Berlin, ses habitants, dire des choses et renouer aussi avec un cinéma que plus personne n'ose faire, c'est un cinéma finalement expressionniste allemand. Et c'est ce regard en particulier, et un regard un peu extérieur, qui permet sans doute aux ailes du désir de trouver sa justesse.
Alors quand on écoute l'histoire que ce film raconte, telle que vous l'avez fait il y a quelques secondes, Dick, on pourrait se dire que c'est un film romantique. Or, c'est un faux film romantique. Et par ailleurs, c'est un film qui est quand même très dense et très complexe au niveau des thématiques qu'il aborde.
Oui, absolument. On a l'impression, puisqu'on parle d'ange et d'un ange qui tombera amoureux, qu'il y aurait simplement une tonalité intimiste et romantique. En vrai dire, c'est pas tout à fait ça que l'on ressent dans le film, puisque on sent d'abord le penchant de Wenders pour les personnages marginaux, à la fois chez les humains et à la fois chez les anges eux-mêmes, qui ont une errance marginale. Et puis, on va suivre un marginal parmi les anges, en quelque sorte. Ouais. Mais à travers cette situation-là, on va surtout affronter une espèce de maelstrom, de thèses assez complexes, portées par des monologues parfois très littéraires de Peter Handke. Et le film prend vite la forme d'un conte métaphorique qui aborde de grands thèmes existentiels et théologiques. On parle même de sotériologie, c'est cette science théologique qui traite particulièrement du salut de l'humanité et de sa rédemption. Et donc, qu'est-ce que l'existence? Quel est le propre de la condition humaine? Comment est-ce qu'on peut vivre pour soi et pour les autres? Comment est-ce qu'on peut assumer ses désirs et ses obligations? Quel sens donner à sa vie? Quelle position, surtout, peut-on prendre pour se prémunir des horreurs de ce monde, puisqu'on n'arrive pas à empêcher l'horreur de ce monde.
Ouais.
Et bien sûr, Berlin est la ville témoin des horreurs.
Qui est un personnage à part entière.
Exactement. Ouais. C'est à la fois un grand décor et peut-être pas un personnage, mais dans le fond, c'est le sujet du film.
Ouais.
C'est-à-dire que les personnages animent Berlin, montrent Berlin et une grande ville en souffrance d'elle-même, en réparation d'elle-même. C'est tout cela qui est raconté. Et puis, bien sûr, selon sa foi aussi, on s'interroge. Comment expliquer le silence de Dieu face aux atrocités ou comment vivre désormais dans un monde privé de Dieu. En fait, heureusement, le film ne fait que poser des questions, ne donne jamais de réponses. Mais on a donc une série de monologues comme ça, très, très importants, des différents personnages qui vont exprimer leurs doutes et leurs crises existentielles.
Je vous propose justement de passer un de ces monologues, en tout cas un extrait d'un de ces monologues, extrait donc de ce film de Wim Wenders, Les ailes du désir.
Quand j'étais avec quelqu'un, j'étais souvent heureuse. Et en même temps, je prenais tout pour des hasards. Ces gens étaient mes parents, mais d'autres aussi auraient pu l'être. Pourquoi ce garçon aux yeux marrons était-il mon frère, plutôt que le garçon aux yeux verts que je voyais passer sur le quai d'en face? La fille du chauffeur de taxi était mon amie. Et de la même façon, j'aurais aussi bien pu de mes bras entourer la tête d'un cheval. J'étais avec un homme, amoureuse de lui. Et j'aurais pu sans hésiter le laisser là. Et poursuivre ma route avec cet inconnu que nous venions juste de croiser dans la rue. Regarde-moi ou non. Donne-moi la main ou non. Non. Ne me donne pas la main et ne me regarde pas.
Voilà, c'est un extrait très littéraire, évidemment. Moi, je me souviens du film, c'était un film passionnant. On peut rappeler qui est la voix française que l'on entend dans cet extrait, Dick ?
Oui, c'est l'actrice principale qui joue donc le rôle de Marion. Et c'est Solveig Domartin qui a fait une belle carrière, mais qui est malheureusement décédée très tôt dans son parcours. Ouais. Donc, on l'a un petit peu oublié aujourd'hui, peut-être.
Oui. On entend la musique du film, on vient de l'entendre dans cet extrait. Et ça me permet de parler d'autre chose qui est, le côté très hybride de ce film. Et c'est son côté moderne aussi. Il y a plusieurs plans, c'est un film hybride.
Oui, absolument. On vient de l'entendre, un texte littéraire, des références très pointues à la théologie, à l'angéologie, à la liturgie des morts, au registre évangélique, mais dans un Berlin effervescent, où la jeunesse est très sensible au rock avant-gardiste, voire post-punk. On va entendre Laurie Anderson, Tuxedo Moon, on va beaucoup évoquer Nick Cave and the Betsies, jusqu'à voir, à un moment donné, un concert de Nick Cave dans le film, qui est alors la véritable star underground des nuits de Berlin, et qui offre une sorte de grand-messe comme ça dans le film. Mais en fait, tout se mélange un petit peu. Hein. C'est vrai, il y a ce côté hybride fondamentalement moderne du film. On l'a dit, il y a le mélange du noir et blanc et des couleurs. Hein. Ouais. Un noir et blanc très particulier que Henri Alcan avait obtenu, disait-il, en utilisant un filtre de sa fabrication, qui était un bas de soie particulièrement fin, qui aurait appartenu à sa grand-mère et qui aurait permis de tamiser en quelque sorte les choses. Alors, ce système de noir et blanc et de couleur est assez intéressant.
Il est narratif aussi.
Il n'est pas tout à fait automatique, tout à fait compréhensible, mais on comprend quand même au fur et à mesure que l'on pratique le film que le noir et blanc, c'est en fait le regard des anges. Et la couleur, c'est le regard des humains. Et évidemment, lorsque l'un ange va passer d'un monde à l'autre, eh bien, on va passer du noir et blanc à la couleur. On va aussi mélanger documentaire et fiction. Et là, c'est vrai que ça rappelle un autre film qui est Hiroshima, mon amour, d'Alain René, de 59, qui avait déjà intégré des films d'archives à l'intérieur de sa narration. Wenders rejoue le coup, en quelque sorte, ici. Intègre, en effet, des images d'archives de 1945 de Berlin au moment de sa chute, en quelque sorte, dans le film ici. Et puis, par ailleurs, fait lui-même œuvre de documentaire, en quelque sorte, en filmant si longuement le fameux mur de Berlin. Et puis, c'est aussi un film étonnant, parce qu'il a l'air très composé. On a entendu des moments très littéraires, très écrits. Les plans sont très composés eux-mêmes. Et en vérité, on découvre, en se renseignant un petit peu, que le film a été largement improvisé.
Ah ouais.
Et qu'il s'est basé beaucoup sur des idées de scène. Et que Wenders, en fait, de jour en jour, imaginait un petit peu les choses. Et que beaucoup de comédiens ont improvisé leurs textes à partir de fragments qui avaient été écrits par Peter Handke, y compris Peter Falk lui-même, d'ailleurs. Et je dirais que l'hybridation va jusqu'au bout, c'est-à-dire que le film est à la fois terminé et incomplet, puisque on est surpris à la fin du film par un panneau qui dit « à suivre ». Et c'est vrai qu'on a un rythme tout à fait onirique, un peu indolent, un peu hypnotique dans ce film. Et tout d'un coup, une femme brutale avec à suivre. Et Wenders explique que finalement, il avait un manque de moyens. Il n'avait pas pu faire le film qu'il voulait vraiment faire, puisqu'il voulait suivre un deuxième ange, qu'on voit un peu dans le film, et lui aussi suivre son trajet. Et en vérité, il le fera, mais bien plus tard. Hein, ce sera dans Si loin, si proche, 6 ans plus tard, je crois. Mais en attendant, ce geste-là, cet improbable panneau à suivre, a été pris aussi comme un geste de grande modernité. C'est une manière de clôturer le film sans clôturer le récit, et de finalement faire prolonger la rêverie mélancolique du film.
Il faut voir, découvrir, si vous ne le connaissez pas, évidemment, ou revoir dans cette version restaurée, remarquable. Il faut voir et revoir Les Ailes du Désir, réalisé en 1987 par Wim Wenders. On le rappelle, c'est un coffret collector publié chez Carlotta Film qui rend cette version disponible. Une page de pub et on vous retrouve, Dick, juste après pour parler d'un film d'animation.
La première.
Merde! Regardez le petit dingue comme il est mignon. Terre, M, Tiva. Répète.
11h30, 13h.
Le satellite naturel, la planète sauvage, est réservé à la méditation des dragues.
Avoir un homme domestique, ce n'est pas une mauvaise chose, ça distrait. Mais tous ces hommes sauvages, ils pillent, ils sont sales et se reproduisent à une vitesse folle.
Entrez sans frapper.
Extrait sonore d'un film dont nous allons parler maintenant avec vous, Dick, pour suivre cette émission spéciale cinéma de 87. On va remonter le temps jusqu'en 1973, année de sortie de La Planète Sauvage. C'est un film de René Laloux et de Roland Topor, très important. Et c'est à l'occasion de la sortie d'un livre de Fabrice Blin et de Xavier Kawatopor, intitulé L'Odyssée de la Planète Sauvage, qu'on va en parler avec vous. C'est chez Capricci. Pourquoi l'Odyssée? C'est quoi ce livre, Dick?
Oui, ben je suis assez heureux de pouvoir en parler parce que j'adore qu'on puisse faire aussi de l'histoire du cinéma d'animation.
Ben oui.
Et c'est une Odyssée parce que c'est une entreprise assez dingue que ce film qui est devenu aujourd'hui une œuvre culte. Alors c'est en effet un film qui est né d'une collaboration entre deux artistes hors normes, on va revenir dessus, hein, Laloux et Topor, qui propose une espèce de fable écologique et politique tout à fait étonnante et qui est sans doute une des premières incursions du cinéma d'animation dans le domaine de la science-fiction. On sait bien que l'animation a des rapports privilégiés avec le fantastique, le conte, le merveilleux, le burlesque même, ouais. Bien sûr, hein. Ce sont des genres qui ont été très investis, mais sans doute beaucoup moins la science-fiction, à l'exception sans doute du cinéma d'animation japonais. Mais on peut considérer vraiment que La Planète Sauvage a été un film pionnier en la matière. Et ce que ce très beau livre, très illustré, très bien documenté, va faire, c'est vraiment proposer une enquête sur le film, apporter beaucoup d'éléments de compréhension qui touchent à la fabrication de ce film, fabrication un petit peu épique, hein, puisque le film a été fait à Prague, c'est une coproduction entre la France et la Tchécoslovaquie, qui à l'époque est une terre vraiment importante de production de films d'animation. L'animation pragoise est absolument renommée. Le livre est très très illustré, on revient sur évidemment les personnalités phares qui ont permis sa création, on va analyser des dessins préparatoires, le scénario, le storyboard, toute une série d'articles extrêmement approfondis et vraiment analytiques. C'est un livre somme et que l'on doit à deux grands spécialistes, à Fabrice Blin, qui est réalisateur, mais aussi qui est le biographe officiel de René Laloux, et puis Xavier Kawatopor, un Topor qui n'a rien à voir avec le Roland, oui. Topor, qui est historien, écrivain, ouais. Vraiment directeur artistique spécialisé dans l'animation. Et donc là, il propose un ouvrage de référence sur ce film culte, mais finalement dont on méconnaissait un peu l'histoire.
Mais oui, c'est vrai, c'est un film classique, mais on connaît peu. Finalement, il faut aussi resituer ça dans l'époque. Hein. C'était à l'époque de l'animation en 2D, c'est important de le dire. Ouais. La Planète Sauvage, c'est quoi, Dick? Résumez-nous ce film qui a une facture aussi, une beauté, ouais. Formelle et musicale très particulière.
Oui, c'est un OVNI. C'est un objet, ah ouais. De science-fiction non identifié. Un long métrage, hein, donc 72 minutes d'animation, librement, ouais. Adapté d'un roman français, un roman de Stéphane Will, qui s'appelait Hommes en série, le dernier d'une toute une série de romans parus en 57, dans lequel cet auteur développe un peu une sorte de vision dynamique des civilisations, c'est-à-dire qu'elles auraient besoin d'adversité pour maintenir leur force en éveil. Il faut des environnements hostiles pour que les civilisations perdurent. Et donc, il y a une dimension épique assez importante qui rappelle un petit peu l'histoire de l'esclave gladiateur Spartacus, hein, vous savez, de la révolte, ouais. Qu'il a menée contre Rome. C'est un peu ce schéma qu'on va retrouver. C'est donc vraiment la science-fiction adulte, non pas qu'il y ait des choses olé olé, hein, mais c'est que l'intrigue est complexe et mature, même si je suis sûr que les adolescents d'aujourd'hui seront très sensibles aux messages politiques et écologiques qui se trouvent dans le film.
Très moderne, hein, parce, ouais. Qu'on le rappelle, hein, c'est 1973, c'est,
absolument.
Un film qui a plus de 50 ans.
Oui, oui, oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le film va être récompensé, hein, du prix spécial du jury à Cannes, mm-hmm. Un film d'animation, prix spécial du jury à Cannes, ouais, ouais. C'est quand même pas tous les jours, effectivement, et il y a eu un phénomène d'engouement autour du film. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, ce film? L'histoire n'est pas simple, je vais essayer d'être très bref. On est sur une planète, la planète Igam, où vivent des drags. Ce sont des géants humanoïdes à la peau bleue et aux yeux rouges. Ils sont vraiment au sommet de la connaissance, hein, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à méditer, d'ailleurs. Et ils possèdent, pour animaux familiers, des OMS, O-M-S, qui ressemblent évidemment terriblement à vous et moi,
ouais,
des hommes,
humains, quoi, ouais.
Qui sont rapportés d'une lointaine planète dévastée. C'est un animal de compagnie, en quelque sorte. Et un petit bébé homme est confié à un drag. La petite créature va grandir et en fait, elle va profiter... Bon, voilà un petit mécanisme, un petit truc scénaristique. Elle va profiter de l'enseignement de la fillette drague à qui ce petit homme a été associé et va devenir de plus en plus intelligent et éduqué. Finalement, on va s'enfuir des drags et puis va découvrir d'autres hommes sauvages. il va leur apprendre des choses. Cette peuplade d'hommes va évidemment devenir une menace, en fait, pour ceux qui habitent sur cette planète, les fameux Drags. Et finalement, ces hommes vont essayer de quitter cette planète pour trouver une autre qui serait une planète sauvage.
Ouais.
Alors, on voit bien hein, les thèmes, évidemment, la question du savoir, le joug, la révolution, la révolte, et puis des thèmes de conquête spatiale aussi. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que tout l'intérêt du film vient évidemment du visuel, on va y revenir, mais aussi du musical.
Ah ouais.
Puisque l'atmosphère, le récit, l'ambiance sont vraiment portés par les sonorités du film, et elles sont confiées à deux grands musiciens. Il y a Jean Guérin, qui est un musicien de jazz, qui fait vraiment le travail de sound design du film à base de bruit électronique produit par des synthétiseurs. On a une ambiance extrêmement immersive, très étonnante. Il faut inventer, évidemment, tous les sons de ces planètes. Hein. Et donc, c'est un discours sonore, pratiquement, qui propose un univers onirique et poétique. Et puis, donc, c'est aucun bruitage réaliste, évidemment, ouais. là-dedans. Mmh. Et puis, un deuxième musicien, hein, qui est Alain Goraguet, pianiste ouais. de jazz, célèbre à l'époque parce qu'il, c'est l'arrangeur de Bobby Lapointe, de Serge Gainsbourg, il travaille sur Poupée de cire, Poupée de son, et puis il va travailler avec Adamo, Brigitte Bardot, Joe Dassin, ouais. etc. Et, Goraguet va faire les thèmes lancinants, du film, portés à la guitare, par une guitare, mais une guitare qui doit beaucoup aux pédales, hein, les fameuses pédales wah-wah, comme ouais. on disait, les pédales fuzz.
Ouais.
Et c'est assez nouveau et ça crée des étrangetés dans le film. Et dès les premières images du film, par exemple, il y a des chœurs féminins extrêmement envoûtants, hein, comme des chants de sirènes, qui vous emportent vraiment dans un univers étrange et inquiétant. Je ne sais pas si on peut écouter
on a un extrait,
un morceau, oui.
Justement, ça tombe bien. On a un extrait de cette musique qu'on écoute pendant quelques secondes, la musique donc d'Alain Goraguet pour La planète sauvage. Un extrait de la bande originale de La planète sauvage. Ça rappelle d'autres thèmes, évidemment, parce que à l'époque, il y avait aussi un certain François de Roubaix qui faisait de la recherche musicale pour des bandes originales de films. Ça, c'est au niveau de la beauté formelle, évidemment.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec cette musique, en fait, le long métrage a été comparé à Yellow Submarine, bizarrement, de George Dunning. Et en fait, les deux films vont être souvent exploités ensemble à l'international. Or, c'est assez amusant parce que les auteurs, justement, Lalou et Topor, n'ont absolument jamais voulu faire un film psychédélique. Ils sont très loin de Peace and Love.
Ouais.
Eux, leur référence, c'est vraiment le surréalisme.
Eh bien, parlez-nous justement de René Lalou et de Roland Topor, qui sont les co-auteurs de cette planète sauvage. Dit.
Oui, Lalou, c'est un... Bon, il fait toute sa carrière dans le cinéma d'animation, en fait. Il a commencé par faire des courts-métrages dans un établissement particulier. C'est une clinique psychiatrique où travaille notamment Félix Guattari, hein, vous savez, le fameux psychanalyste et philosophe français qui était complice de Gilles Deleuze.
Mmh.
Et donc, il fait des courts-métrages avec les patients. Donc on voit qu'il travaille déjà une forme d'étrangeté qui vont l'amener à produire d'autres courts-métrages très remarqués. Et puis, il va se lancer dans trois longs-métrages ambitieux. Il y aura Planète Sauvage en 73, Les Maîtres du Temps en 82, qui est associé au journal Métal Hurlant et qui est un grand film de science-fiction aussi, dessiné par Moebius.
Ouais.
Et puis en 87, Gandahar. Mais tout cela n'aurait pas été possible sans une rencontre déterminante avec Roland Topor, artiste vraiment pluridisciplinaire. Il a tout fait, hein. Dessin, peinture, théâtre, de la chanson, acteur, cinéaste, poète. Et qui, parmi toutes ses activités, écrit notamment des scénarios, propose des illustrations. On lui donne des fameuses illustrations d'affiches célèbres, hein, comme le tambour de Schlondorf, par exemple, ou l'Empire de la Passion de Shima. Vrai touche à tout. On le connaît aussi, moi je l'ai connu comme ça d'abord, hein, comme l'auteur évidemment de Téléchat.
Mais oui.
Voilà, avec les marionnettes, hein, Grouchat, Lola, l'Aiglion, le micro-migmac et le fameux légumane.
Mais c'était un personnage aussi, hein.
Personnage absolument fabuleux et très étonnant. Et c'est lui qui va laisser vraiment libre cours à son imagination surréaliste et qui va faire tous les dessins de référence de La planète sauvage. Et donc, ce film, il est vraiment signé de ces deux auteurs un peu.
Avec un choix esthétique particulier, Dick.
C'est de l'animation de papier découpé. Ce qu'on appelle du cut-out, dont en fait c'est un peu comme une marionnette, mais vous avez un personnage en papier qui est en 2D. Les parties de son corps sont indépendantes et on n'a plus qu'à faire bouger la tête, les jambes et les pieds autour de points d'articulation, de points de jointure. Alors évidemment, c'est un travail assez différent du cellulo, de l'animation traditionnelle, ouais. Où il faut absolument tout redessiner en quelque sorte, ou presque tout. C'est un travail aussi, s'il est un peu plus rapide de ce point de vue-là, qui est une esthétique assez particulière, puisque on peut jouer sur la temporalité. On ne vise pas la fluidité parfaite. Mm-hmm. On travaille sur des temps hachés, sur des pauses, sur des stases. C'était assez en vogue dans les années 70, hein, pour donner un point de référence. On en trouve dans les animations des Monty Python,
oui.
Dans les années 70, à ce moment-là. Alors, il y a des qualités, hein, très précises à ce papier découpé, et ça demande quand même un financement particulier. Topor et Lalou ne le trouvent pas en France, et ils vont devoir partir en effet à Prague avec 25 personnes pour travailler sur les un peu plus de 1000 plans du film. On revient dans le livre sur la confection assez difficile du film à Prague. Lalou racontant que ce type d'entreprise, c'est comme faire la guerre en quelque sorte. Mais au total, ça reste une formidable réussite artistique et ça donne surtout un film d'une singularité totale. Hein. Cette musique, on l'a dit, ce scénario assez improbable qu'on n'imagine pas dans un film d'animation et qui change ce qu'on croyait savoir du film d'animation, souvent réservé aux enfants à l'époque et aux des choses plus divertissantes. Et puis, bien entendu, un visuel tout à fait stupéfiant.
Ouais. Il nous reste 2 minutes pour encore évoquer, Dick, ce film La Planète Sauvage. Mais évoquer les références, finalement, sur lesquelles il s'est battu, ou bâti, plutôt. Ouais. Et puis aussi, l'héritage qu'il reste de ce film de 1973.
Oui, bâti et battu, c'est bien ça, parce qu'effectivement, il y a des références qui sont là, mais il a fallu se les approprier, en quelque sorte.
Il a fallu se battre.
Il est évident qu'il y a du Jérôme Bosch, il y a de la caricature de Granville, il y a des illustrations de Gustave Doré qui sont là, dans la tête de Topor, il y a la peinture symboliste. Le film est un peu pensé comme un cabinet de curiosité. Et donc, il nous renvoie à Bosch, à Odilon Redon, à Alfred Cubin aussi, d'une part, et puis d'autre part aussi, à toute la peinture surréaliste, et sans doute dans le ton. Et ça, c'est vrai que René Lalou est très attentif. Hein. Il définissait d'ailleurs le surréalisme, la peinture surréaliste, comme une espèce de docteur Freud qui rencontrerait une ligne d'horizon. Et c'est cette idée-là qui va être travaillée. On va retrouver comme ça des sources. On va penser à Yves Tanguy, on va penser à Salvador Dali, on va penser à Max Ernst à plus d'un moment. Et puis dans le rapport au temps, à la suspension, très souvent, on a l'impression d'être devant un tableau de Géricault ou de Magritte, par exemple. Ouais. C'est vraiment riche, complexe visuellement. Alors, en termes d'influence et d'héritage, pour dire vite, ça a vraiment profondément marqué toute une génération de réalisateurs d'animation. Je pense à Michael Dudok de Witt, par exemple, qui a réalisé La Tortue Rouge, ou Xavier Kawatopor, qui a écrit ce livre aussi, dit bien à quel point le film a été une grande influence au Japon. Que Go Nagai, le créateur de Goldorak, Tezuka, le créateur d'Astro le Robot, comme Miyazaki, ont beaucoup vu ce film et l'ont soutenu, en vérité. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il en reste quelque chose. Et sur les écrans, on a pu voir tout récemment le très beau Mars Express de Jérémy Perrin, film de science-fiction qui emprunte à Ghost in the Shell comme à l'Odyssée de l'espace, mais qui emprunte avant tout à l'univers de René Lalou, au Maître du Temps, mais aussi à La Planète Sauvage, sans qui rien n'aurait été sans doute possible.
Voilà, il y a donc le livre, évidemment, très beau livre donc de Fabrice Blin et Xavier Kawatopor, L'Odyssée de la Planète Sauvage, chez Capricci, et puis, évidemment, il y a aussi les DVD, donc il y a moyen, évidemment, de voir ou de revoir cette planète sauvage. Merci beaucoup, Dick Tomasovic.
Avec beaucoup de plaisir.
On va parler de bande dessinée dans cette émission. Ce sera juste après Frankie Frame. Voici Daddy's Car.
11h30, 13h.
Entrez sans frapper sur La Première.
Et on termine cette émission, comme promis, avec vous, Xavier Van Bugenhout, bande dessinée. Et on va commencer avec Frankenstein à Bagdad, c'est le titre. C'est une adaptation d'un conte fantastique de Ahmed Saadawi, par le scénariste Antoine Ozanam et le dessinateur Tony Chitidani.
Oui, alors, conte fantastique, certainement, parce que c'est l'imaginaire qui a été choisi par l'auteur qui, malgré tout, s'attache à raconter la terrifiante réalité de Bagdad, post-attentat 11 septembre, en pleine occupation américaine en 2005. Et on va suivre plusieurs personnages dans cette histoire qui sont des habitants de Bagdad. Il y a un journaliste, un gardien d'immeuble, une mère qui a perdu son fils, entre autres, et un certain Adi Al-Attag, qui raconte des histoires improbables au café, et tout le monde le croit plus ou moins, mais en tout cas aime bien écouter les histoires qu'il raconte parce qu'elles sont assez farfelues. Et l'une de ces histoires incroyables, c'est qu'il explique que depuis plusieurs mois, il reconstitue un corps à partir de morceaux de cadavres qu'il récolte sur les lieux d'attentats ou de diverses attaques à Bagdad. Et effectivement, on va le voir, par exemple, récupérer un nez après un attentat suicide à la voiture piégée. Il va coudre le nez sur le visage de cette créature qui, effectivement, a des allures de monstre de Frankenstein. Alors évidemment, raconter comme ça, c'est trash, c'est dur. Et en même temps, il y a un ton, il y a une distance, il y a un humour qui, même par moments, va vous nous amener sur un autre terrain. Et l'idée de ce que deviennent les corps dans ce déferlement de violence est une manière de raconter de façon imagée la folie, l'absurdité de cette violence qui s'abat sur la ville de Bagdad. Et ce Frankenstein, il est composé de morceaux de combattants chiites, sunnites, d'Al-Qaïda, mais aussi d'anciens cadres du parti basse de Saddam Hussein, de mercenaires russes, de soldats américains. Et d'ailleurs, parce que en fait, c'est difficile de comprendre finalement dans ce bourbier qui s'en prend à qui. Et ce Frankenstein, il symbolise toutes les victimes finalement de cette situation absolument chaotique. Alors Frankenstein va évidemment se réveiller grâce à l'âme d'un mort qui lui n'a plus de corps justement, puisque les corps sont disloqués, éparpillés. Ouais. Et le Frankenstein, il va vouloir se venger. Mais se venger de qui ? Parce que la liste, elle est longue, évidemment. Elle est interminable puisqu'elle est constituée d'innombrables victimes. C'est une histoire assez dingue, fantasmagorique, drôle et en même temps terriblement pertinente sur l'absurdité de la violence et le degré d'inhumanité dont l'homme est capable. C'est une prouesse, je trouve, d'être parvenu à transposer ce récit littéraire.
Mais c'est une très bonne idée. Hein.
C'est une très très bonne idée, ce conte fantastique dans un format BD, en l'élaguant forcément, mais en le gardant foisonnant à travers les différents personnages qui constituent l'histoire. Il y a une très très belle idée aussi sur le concept de vengeance qui est finalement un engrenage qui ne mène évidemment à rien, si ce n'est à davantage de violence. Évidemment, ça fait écho à d'autres conflits, évidemment. Frankenstein à Bagdad, c'est aux éditions Soleil.
Et ça donne envie. On poursuit avec La Mare, c'est signé Eric Crick, c'est un thriller psychologique qui utilise les codes de l'horreur, encore.
Oui, alors ici, et on le devine assez vite en jetant un œil distrait à la couverture, une femme en salopette, de profil, le visage pour le moins préoccupé, et le choix des couleurs et le dessin qui fait aussi penser à du Charles Burns. Charles Burns, grand auteur, dessinateur américain, à qui on doit notamment Black Hole. Et d'ailleurs, c'est assez frappant hein, sur la couverture, d'autant que l'éditeur a choisi un dos de couverture en toile, typique des éditions Cornelius, qui justement édite Charles Burns en français. Mais le style de Eric Crick est vraiment bien influencé effectivement par la BD américaine, mais il va se détacher de l'influence de Charles Burns à l'intérieur du livre. C'est d'ailleurs un auteur qui est reconnu aux Pays-Bas, d'où il est originaire, avec plusieurs distinctions, particulièrement pour son dessin. Et ici, La Mare raconte l'histoire d'un couple, Hub et Sarah, qui emménagent dans une grande maison de famille isolée, magnifique, au milieu des bois, une maison qu'il faut un petit peu retaper, et dans lequel, dans ces bois, se trouve une mare avec une eau d'un noir profond, un arbre centenaire déraciné et des inscriptions étranges sur les écorces de certains arbres. On dirait un graffiti tout droit sorti de Blair Witch Project, dira le mari Hub. Et effectivement, c'est dans ce type d'atmosphère horrifique, anxiogène, qu'on va très vite se retrouver. Anxiogène pour deux raisons. Mais d'une part, parce qu'on va vite découvrir que ce couple est en phase de reconstruction après un terrible drame qui les a frappés, la mort de leur enfant de 6 ans dans un accident. Et parallèlement, il y a toute une série d'événements inexpliqués, assez creepy, qui vont survenir. Il est question d'horreur, de psychose, où l'imaginaire et le réel s'entrecroisent à tel point qu'on ne sait plus bien qui croire, et jusqu'au bout, avec en apothéose un retournement de situation inattendu et une fin d'ailleurs un peu trop ouverte. Mais mis à part cet épilogue un peu flou, il y a une tension extrêmement forte, un récit horrifique plus inattendu que le laisse penser le début de l'histoire, avec en parallèle un drame psychologique qui est subtilement traité sur le deuil, la résilience. Et puis, moi, je trouve que c'est surtout un récit où on est complètement happé par la maîtrise graphique, avec un jeu sur les ombres et l'utilisation seulement d'une poignée de couleurs, avec un ancrage profond. Donc, joli coup de cœur pour La Mare de Eric Crick. C'est aux éditions en SPAC.
Merci beaucoup, Xavier Van Bugenhout. Merci. Et on est pressé de lire, évidemment, tout cela. Merci aussi à Marie, Agnès Baupin, Evians, Catherine Robert. Merci à vous de nous avoir suivis dans quelques instants les informations avec Anne Goderno. Lundi, invité exceptionnel pour une bande dessinée exceptionnelle. Jérôme Collin recevra Manu Larsonné. Bon après-midi.
La première.
L'esprit clair.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.